Eh bien, écoutez, je viens de prendre à l'instant l'Assemblée nationale et je vois la réponse de Monsieur Sarkozy à une question posée par les socialistes. Et devant cette réponse acerbe, acérée, cette critique, vraiment cette attaque absolument absolument insensée, ça n'est plus une faute. C'est vraiment, monsieur, vous perdez la face, ainsi que votre gouvernement, on a prouvé. Je viens juste de le prendre, donc c'est spontané, la réponse n'a pas eu le temps, je n'ai pas pu préparer. Mais vraiment, 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 honte à vous, monsieur. Quand on pense que monsieur Raffarin aussi, au début de son mandat, disait que les chômeurs, on allait remettre la France au travail, et bien que cette politique dirigée par monsieur Sellière, enfin, a maintenant qu'elle l'a bien montré ce qu'elle était, que les Français ne sont pas aussi bêtes que l'on pourrait le supposer, et bien, messieurs, honte à vous, et enfin, que l'on change.
Bonjour, Daniel, c'est Alex Alland à New York, votre correspondant des États-Unis. Je viens de voir sur Antenne 2 le discours de Sarkozy sur la France antisémite et comme la faute des socialistes. C'est absolument faux. La situation ici anti-français est due majoritairement, au moins, à la propagande pro-israélienne, qui n'accepte pas que les Juifs comme moi sont aussi avec les Français pour la paix et justice au Moyen-Orient. Pour le reste, le manif dimanche passé était formidable à Washington, avec probablement 1 million de personnes, femmes, hommes, jeunes, vieux, etc. Mais la situation politique ici est assez triste. On a peur que Bush peut passer encore une fois. Et si c'est le futur des États-Unis, c'est vraiment très, très, très grave. Je reviens en France le 23 ou le 24 juin et je vais vous téléphoner comme habitude quand j'arrive. Courage et... félicitations pour les élections en Espagne et aussi en France. Au revoir.
Voilà, beaucoup d'échos et beaucoup de messages au sujet de la sortie du ministre Sarkozy hier à l'Assemblée nationale sur le répondeur de la BACIJC. Vous avez été très nombreux à réagir au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui... comment on va appeler ça? On va appeler ça le moustique et le marteau. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Oui, c'est ça, le moustique et le marteau. Et auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la BACIJC. J'y suis beaucoup de messages pour Monsieur Marcel, à la mémoire de Marcel. Et beaucoup d'annonces, et beaucoup de jubilations, et beaucoup de messages.
Je suis bien triste d'apprendre le départ de Monsieur Marcel. Je l'écoutais. Moi aussi, je vous écoute tous les soirs. J'ai 80 ans. J'ai encore 14 ans devant moi. Si je dois faire comme Monsieur Marcel, vivre aussi longtemps, je fais comme lui, de toute façon. Je note beaucoup de choses que vous m'apprenez. Je vous en apprends aussi. J'ai déjà parlé plusieurs fois sur le répondeur. J'ai même récité quelquefois des poèmes. Je crois que M. Marcel était retraité de l'Éducation nationale, je le suis également. Cher Marcel, je vous ai adoré, je vous adore encore. Je souhaite beaucoup d'affection, j'ai beaucoup d'affection, toute ma compassion pour la famille. Et je n'ai qu'un espoir, c'est de vous retrouver, car j'ai la foi. Et je vois que Daniel Mermet aussi pense que Monsieur Marcel nous a quittés pour d'autres ondes, dit-il, comme c'est bien dit. Merci de nous avoir transmis ce message, même s'il est triste. J'en suis heureuse que Daniel nous ait mis au courant. Voilà pourquoi je vous appelle. Et encore une fois, tous mes vœux, et je dis à Marcel, non pas... adieu, adieu toujours, mais au revoir, à bientôt, peut-être. Je suis Paul.
Bonjour, bonsoir, c'est Philippe Vilchalan, porte-parole de la PES, et de la parole, il y en a à porter en ce moment. Vous avez vu Marseille, les chômeurs, les petits, les faibles, les gueux, ont battu les grands, les puissants, les possédants. Et c'est sûr, ça va continuer. Des milliers de chômeurs à signe l'UNEDIC et les ACEDIC un peu partout en France. C'est super, surtout pour quelque chose, c'est ça veut dire qu'on n'est pas toujours obligé de perdre. Et pour ça, il faut s'y mettre. Mais ça suffira pas. C'est l'occasion de remettre à plat tout le système d'indemnisation du chômage, avec l'objectif d'indemniser décemment toutes les formes de chômage. Et le sacro-saint pognon, eh ben, il faut le prendre sur les gigantesques plus-values et sur les produits financiers des grandes entreprises. Pour peser efficacement, les chômeurs ont la tête de la manifestation du 1er mai. Venez nous rejoindre, c'est important qu'on soit nombreux. Rendez-vous avec l'APES aux angles du boulevard du Temple et de la rue Jean-Pierre Timbaud au métro République. On compte sur vous, tous avec les chômeurs, mais c'est pour l'ensemble de la population, des salariés, des citoyens. On s'attaque aux plus faibles, aux plus fragiles, mais c'est pour toucher tout le monde. Alors on compte sur vous, samedi 1er mai, 14h30. Ciao, à bientôt.
Bonjour, je ne sais pas si c'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, en tout cas on espère que non. On est une association de Bourgogne, en Puisaye, la terre de Colette, et on s'insurge contre un projet d'une filiale de Bouygues, la société STS, qui cherche, après moult pressions, à installer un centre d'enfouissement de déchets ultimes, que des choses sympathiques, des biogaz, des déchets industriels, des déchets hospitaliers ou encore pharmaceutiques. Et c'est juste au-dessus, tout ça, au-dessus de la dernière nappe phréatique d'eau potable de tout le bassin parisien. Rien que ça. Voilà. Pour qu'il reste encore un peu d'eau potable et non polluée pour nos enfants, il faut donc se mobiliser et venir soutenir notre association, l'association de sauvegarde de la Puisaye, vendredi prochain, le 30 avril, dans la grande salle du château à Saint-Sauveur en Puisaye. Voilà, venez de partout pour nous soutenir et dire non aux pressions des pollueurs. Merci à tous et à bientôt.
Doit-on perdre sa vie à la gagner ? Le week-end, c'est le 1er mai, et à Montpellier, on fera sa fête au travail avec le premier festival des films anti-boulot le 30 avril, 1er et 2 mai au cinéma Diagonale Capitole. Il y aura des projections et des débats avec les journaux Casseurs de Pub, Décroissance et certains des réalisateurs des films suivants. L'An 01 de Jacques Doyon, d'après le regretté GB. Attention au danger de travail de Pierre Carl, Christophe Coelho et Stéphane Gox. Thème rock de Claude Faraldo. La vie t'en a qu'une d'Abraham Segal. Charles Morouvis d'Alain Tanner. Un bar équitable et une table de presse écolo-libertaire seront tenus conjointement par les Radis Noirs et Mauvaises Graines. Pour plus d'infos, 04 67 610 367. 04 67 610 367. Ras-le-bol du travail.
Bonjour Daniel, c'est Sabine de l'Hérault. Je voulais vous prévenir qu'il y avait Attaque Pixel Loup fait la fête ce samedi 1er mai, donc avec de nombreuses conférences telles que comprendre le commerce équitable, les OGM, la délinquance financière et les paradis fiscaux. Bref, venez nombreux le samedi 1er mai à Clapiers, dans l'Hérault. C'était Sabine, merci, au revoir.
D'un côté, il y avait la richesse, de l'autre côté, la misère, et au milieu, la bête, la terrible bête, que l'on appelait en ce temps-là l'injustice. Adieu, Bruxelles, on t'aimait bien, tu sais. Et n'oublions pas la fameuse devise du professeur Chadoko, terrible devise. C'est en tapant toujours sur les mêmes que l'on a de moins en moins de mécontents. Allez, salut tout le monde, tous les bonheurs sur toi, Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, le marteau et le moustique.
Flight number 2. Arriving from New York.
Mesdames et messieurs, bonjour. Regardez les prévisions météo de Sébastien Follin. Cet après-midi, encore du très beau temps sur toute la France. Un ciel tout bleu avec des températures qui dépasseront souvent les 20 degrés. Bref, pour l'instant, un temps exceptionnel.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Nous libérer de notre devoir de penser. Voilà ce que je me disais un matin au petit déjeuner dans un petit hôtel d'une petite ville, d'une petite France, en feuilletant le quotidien régional à côté d'un croissant en carton et d'une portion de confiture synthétique. Nous libérer de notre devoir de penser. Voilà la mission de ce journal, voilà l'engagement de ceux qui y collaborent, et voilà pourquoi on l'achète, nous libérer de notre devoir de penser. Le pas de vague d'Alsace, l'insipide du centre, le Provence pas de problème, le tout va bien de l'ouest. Au miroir de notre presse régionale, la France est un pays sans histoire, ou presque. Chômage, licenciement, éducation, pollution, petits et grands détournements, petites et grandes magouilles. Non, tout ça n'intéresse pas nos lecteurs. On connaît la chanson du rédac-chef, un brave type, chaleureux comme un raffarin, impuissant comme un socialiste, pragmatique comme un libéral. Avec ce petit air impuissant, navré, revenu de tout, et tellement proche des gens, avec son air de dire « moi aussi, j'ai rêvé, mais ici, voilà ce qu'ils veulent », c'est de la proximité. Le concours de bolotte, la soirée à la salle des fêtes, l'équipe de foot qui a gagné ou qui a perdu, et là, vous vous sentez un peu péteux, vous êtes le parigo, bobo, méprisant de la France d'en bas, qui ignore tout du terrain, du terroir et du vrai quotidien des gens. Évidemment, il y a quand même le confrère qui vous en lâche de sévère, mais c'est toujours dans le couloir qui va de la cantine à la machine à café, et bien sûr, c'est off, et c'est là qu'on vous raconte des histoires de ronds-points et de finances détournées. Il y a aussi le pigiste en CDD qui ose encore, en douce, à condition de anonyme, masqué, parce que boulot, comme là, comme ailleurs, c'est en avoir ou pas, c'est en avoir un, et puis quand on en a un, s'accrocher. Sauf que là, c'est quand même une matière délicate dont il s'agit. Il s'agit d'information, il s'agit de réflexion, il s'agit de démocratie, il s'agit en principe, croyait-on, et fait-on croire, de diffuser des éléments contradictoires d'appréciation pour assumer et exercer nos droits démocratiques. Vous avez compris qu'aujourd'hui, on va parler de la presse, mais pas de la grande presse nationale, non, de la presse régionale, la PQR, comme on dit, les quotidiens régionaux dont on entend les noms quand on est parisien comme moi, dans les revues de presse, et puis qu'on rencontre aussi, ben voilà, dans des petits déjeuners, dans un hôtel ou sur les routes, au hasard des vacances ou des voyages, et dont on espère toujours qu'on va apprendre quelque chose sur l'endroit où l'on est, et on en apprend fort peu, hormis effectivement les résultats du foot, la soirée bolotte, les rencontres du troisième âge, avec toujours la belle formule, encore une bonne soirée à l'actif du centre culturel. On va aujourd'hui avec Thierry Scharf à Amiens, dans la Somme. Et pourquoi on va là à Amiens, dans la Somme? Parce qu'il se trouve qu'il y a là un moustique. Ce moustique, vous le connaissez, il s'appelle François Ruffin. On l'avait reçu ici, François Ruffin, lorsqu'il a publié un livre intitulé « Les petits soldats du journalisme », où ce jeune journaliste s'en prenait à l'école dont il est d'ailleurs diplômé, et où il a fait ses études, et où il a étudié ce qui s'y passait, et il a sorti ce livre reportage qui a fait grand bruit à l'époque et qui continue de faire pas mal de bruit, très critique vis-à-vis du centre de formation des journalistes. François Ruffin habite à Amiens, et là, avec une bande de terroristes dans son genre, de talibans dans son genre, il a, en 1999, créé un tout petit journal qui pourrait avoir une forme de moustique, sauf qu'il s'intitule Fakir, et qui s'est intéressé à la vie locale, des journaux comme ça, des petits fanzines alternatifs. On en trouve un peu partout en France, sauf que là, au lieu de se contenter, faute de moyens et aussi parfois de compétences, d'une invective radicale, Ruffin et sa petite bande, très très petite bande, eh ben ils ont fait un vrai boulot de journaliste, c'est-à-dire qu'ils ont fait des enquêtes sur la vie locale. Et ben la suite, c'est ce qu'il va nous raconter aujourd'hui, et c'est aussi ce que vont nous raconter un certain nombre de personnes, de personnages, de la bonne ville d'Amiens impliquée dans cette affaire du moustique et du marteau.
Bref, pour l'instant, un temps exceptionnel.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Très beau temps sur toute la France. Un ciel tout bleu avec des températures qui dépassent souvent les 20 degrés. Le week-end qui arrive sera sans doute un peu moins beau. Bref, pour l'instant, un temps exceptionnel pour un 7 avril. Les vacanciers de Pâques ont bien de la chance cette semaine. En Normandie, par exemple.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai eu c'est de nos experts, exposition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. Oui moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. Oui moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu, oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu, oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu, oui, moi j'ai tout entendu. Oui, tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
D'abord, les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée, côté météo en tout cas.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Alors, la rédaction crépitante de Fakir, la petite maison au fond du jardin.
Ouais.
Et c'est chez toi en fait, Fakir ? François.
C'était. Il y a une cloison entre les deux maintenant. C'est bien cloisonné. À droite, c'est ma chambre, et au centre, c'est Fakir.
Voilà. Au centre, donc c'est une petite pièce qui fait pièce modeste, quoi.
Alors voilà, la question est posée. Vous avez entendu cette voix qui pose la vraie question, qui est au cœur de cette émission et de ce problème et de ce conflit. On va voir qu'il y a un conflit. Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ? Alors vous l'avez reconnu, François Ruffin, le voilà dans son cœur, au centre de son journal, Fakir, un journal qui paraît tous les deux mois depuis 1999 et qui s'est attiré quelque foudre locale. Explication.
L'équipe est au complet là, aujourd'hui ?
Tout à fait, mais presque.
C'est-à-dire que vous êtes trois dans la pièce là. Donc le rédac-chef, François Ruffin.
Tout à fait.
La demoiselle, Aline, tu fais quoi toi ?
Animatrice de publication.
Devant son iMac. Et puis
Bonjour Fabien, dessinateur, directeur du Bon Goût et maintenant directeur de publication par erreur presque.
C'est à toi les dessins là, ouais évidemment.
Bon, il y a quelques dessins sur les dernières régionales et puis il y en a aussi sur un dossier sur la drogue qu'on est en train de faire.
Alors le dessin dont t'es le plus fier là ?
C'est le dessin légendaire.
C'est le dessin qui nous vaut maintenant 2 années de procédure judiciaire avec le courrier Picard.
Un siècle après Zola, et alors on voit un canard, et ben oui, le courrier Picard, voilà, alors, le courrier Picard qui est dessiné.
Un journaliste, vraisemblablement Michel Mayenfisch, en train de cirer une chaussure, et au-dessus c'est marqué, un siècle après Zola, Michel Mayenfisch, j'accuse ma prose de ne pas reluire assez. Voilà. Et donc je lui avais dit, voilà, on risque quelque chose, mais enfin je pense que le dessin mérite quand même d'être passé.
Bah c'était un spécial procès. Hein. On a eu un procès sur un spécial procès, quoi, en fait. Mais j'étais pas le seul, puisque François a fait aussi un texte satirique.
Oui, chacun y contribue à sa façon, quoi. Chacun est médecin.
On avait chacun apporté notre pierre.
No.
qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique?
Pourquoi Fakir? Pourquoi avoir créé Fakir?
Bah, si j'ai créé Fakir au début, c'était pour aller contre la parole, disons, une parole institutionnelle qui était la parole du journal des Amiénois, donc un journal municipal qui est distribué toutes les semaines dans les boîtes à lettres. Et je donnerai un exemple. La semaine où il y a eu 80 licenciements avec la fermeture de Yoplait, la une du journal des Amiénois était consacrée à un jour Amiens, carnaval, un carnaval fou et gratuit. Donc, et il n'y avait pas une ligne sur les 80 licenciements. Donc c'était pour essayer de rétablir un peu un autre regard sur sa ville, un regard un peu moins optimiste, un regard où sur les photos, on voit bien Amiens, c'est quand même un climat particulier où il y a de la pluie. Sur les photos du journal des Amiénois, il n'y avait jamais de la pluie, alors que j'avais fait des relevés de la climatologie à la bibliothèque municipale. En janvier, il y avait dû y avoir 19 jours avec de la pluie. Février, il y avait dû y en avoir 17. Et malgré tout, sur les photos du JDA, il n'y avait jamais de pluie, il n'y avait jamais de licenciement. Enfin bref, comme le disait le directeur de la publication, et c'était un journal où on devait voir la ville en rose, quoi. Donc c'était pour dire de voir la ville un peu moins en rose, quoi. D'apporter une autre parole que la parole des institutions. Donc notre première cible, c'était le journal des Amiénois. Et notre objectif affiché était de démolir ce journal. Bon, suite à ça, d'abord, c'est un échec, le journal continue d'exister. Bon, et ensuite, on a découvert que finalement, ce qui était la parole institutionnelle, ce qui était normal finalement dans un journal municipal, on retrouvait la même parole institutionnelle dans le Courrier Picard, c'est-à-dire dans le quotidien régional, alors que finalement, eux n'étaient pas supposés être payés pour relayer cette parole institutionnelle. Donc, de là, on a changé de cible. Et on s'est mis à cogner davantage, effectivement, sur le quotidien régional, quoi.
C'est une obsession, ça, le Courrier Picard à Fakir.
Non, c'est pas une obsession, mais faut voir quel est notre poids aujourd'hui. Notre poids est quand même assez minime. On vend 2500 journaux sur Amiens. On n'a pas, un peu moins, mais on n'a pas l'espérance d'en vendre bien davantage, compte tenu de ce qu'est ce genre de presse, de notre mode de diffusion et tout ça. Donc, je crois que si on peut peser, c'est en critiquant ceux qui sont plus forts que nous, les médias qui sont plus forts que nous, pour les inviter à changer, pour inviter les gens qui sont à l'intérieur de leurs journaux à prendre la parole et à dire oui, c'est vrai, c'est pas normal qu'on fasse un journal de cette manière-là.
Voilà l'ambiance, voilà le journal, voilà l'oiseau, les oiseaux, les trois oiseaux, en train de fomenter quelques mauvais coups. Alors, les cibles, bon, les premières cibles, les voilà. Et puis, une cible va être l'adjoint au maire d'Amiens, chargé des finances, qui est conseiller régional, qui est conseiller du président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui est chargé de mission auprès de Gilles de Robien au ministère des Transports, qui est directeur de Submediacom, qui est vice-président d'Amiens Métropole, qui est président de l'ADNTIC, qui est membre de l'UMP et qui s'appelle Roger Mézin. Et le moustique Fakir va mettre en cause cette personne, monsieur Roger Mézin, dans une histoire de gaspillage d'argent public. Enfin, c'est Fakir qui voit les choses ainsi. Gaspillage d'argent public au sujet de la mise en place d'un portail internet qui, toujours aux yeux de Fakir, est aussi coûteux qu'inefficace. Commentaire de François Ruffin.
Évidemment, les conséquences de tout ça, c'est un déluge, c'est peut-être un peu fort, mais en tous les cas, une série de procès. C'est pas si facile de secouer l'institution.
Ben, je crois qu'il y a un problème qui est que ce qu'on fait est relativement banal, on peut dire, au niveau national. Si on le faisait au niveau national, on passerait quasiment inaperçu. Chirac est attaqué de manière beaucoup plus vigoureuse que nous n'attaquons Gilles de Robien. Raffarin est attaqué de manière beaucoup plus forte que nous n'attaquons Roger Mézin. Mais le fait que ça soit fait en province, dans une ville où on n'a pas eu l'habitude de ces contre-pouvoirs, où il n'y a pas les guignols de l'info en local, où il n'y a pas le canard enchaîné en local, où il y a une certaine la démocratie locale est complètement endormie, elle est anesthésiée, on a un quotidien régional qui lui-même n'apporte aucune contradiction aux pouvoirs en place, fait que le fait qu'il y ait ce genre de presse qui arrive, on estime que c'est anormal. Il y a cette phrase de Roger Mézin en procès contre nous, qui
est le premier adjoint au maire
de la ville d'Amiens, ouais, qui déclare « on n'est pas à Paris, ici, on est dans une petite ville de province ». Donc effectivement, ça en dit long. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont permises à Paris, mais qui ne le sont pas. Faire le même travail à Amiens, c'est quelque chose qui est intolérable. Et on va passer aussitôt, on va être dénoncé comme étant des talibans de l'information, des terroristes journalistiques, des parasites sociaux.
C'est ce qu'on vous reproche. Ça.
C'était l'avocat président du club de foot d'Amiens qui le déclarait lors du procès.
Parce qu'évidemment, l'avocat de l'adjoint au maire est aussi président du club de foot.
Le hasard fait bien les choses.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Et comment un si frêle moustique peut-il susciter tant de grabuges dans la bonne ville d'Amiens ? Réponse et commentaire de Monsieur Roger Mézin, je rappelle, premier adjoint au maire d'Amiens, chargé des finances, conseiller régional, conseiller du président de la Chambre de commerce et d'industrie, chargé de mission auprès de Gilles de Robien au ministère des Transports, directeur de Supmediacom, vice-président d'Amiens Métropole, président de l'ADNTIC et membre de l'UMP.
Monsieur Roger Mézin, vous avez été une des premières cibles de Fakir, le journal Fakir. Ça vous a pas plu? Et vous avez attaqué en justice. Vous avez tenté un procès que vous avez perdu en deuxième instance. Comment vous avez pris ça ?
Le président m'a demandé pourquoi je faisais un procès. Et je lui ai dit parce que je me fais une certaine idée de la presse. C'est-à-dire que dans mon milieu, on a peur d'attaquer en diffamation. Contre la presse, on a toujours tort.
Même avec un petit journal comme ça, de rien du tout ?
Ça ne change rien, puisque c'est un petit journal. Mais vous comprenez bien que quand vous êtes connu, tout le monde a lu ce petit journal. Il se le passe. Rapidement, t'as vu, Mézin est mis en cause. À chaque fois qu'il y a, d'un côté, pas de risque, et de l'autre côté, une facilité à agir, vous avez cette espèce de phénomène de la démocratie où on fait grève, on coupe le courant, etc. Il n'y a pas de risque derrière. Vous perdez pas un jour de salaire, on vous prélève pas de droit. Bon, et ceci altère la démocratie qui est un équilibre.
Monsieur Mézin, vous savez que 160 000 francs ont été réclamés.
Oui.
C'est de nature à couler le journal.
Et alors, qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ? Rien. Il lui nuit. Il fait paraître tous les hommes importants qui débattent de choses difficiles, comme des margoulins, des plaisantins, qui ne songent qu'à s'en mettre plein les poches, au pire, ou au mieux, qui s'en foutent des affaires publiques, qui gèrent ça n'importe comment.
Mais est-ce que pour autant, il faut flinguer un petit journal comme ça qui porte la contradiction ?
Sans hésitation. C'est-à-dire...
Sans hésitation, oui.
Sans hésitation. Il faut faire disparaître, de mon point de vue... Tout ce journalisme de diffamation, ces minutes, ces machins trucs, qui n'attaquent que les personnes. Pour moi, il y a des jeunes abrutis qui se jouent aux journalistes avec la plus mauvaise part du journalisme, le refus de la vérité lorsqu'elle n'est pas sensationnelle. C'est inadmissible, ça fout notre démocratie par terre. Le jour où on aura perdu la démocratie parce que des Le Pen ou autres auront tapé là-dessus avec le consentement du peuple qui en a marre, il voudrait bien avoir une presse sensible à la vérité.
Donc vous considérez que c'est pas un vrai journaliste ?
Ah, dans ce cas-là, pas du tout. Il a du talent, son talent il l'a mis au service du mal. Et tous ceux qui mettent leur talent au service du mal, pour moi, ne doivent pas exercer une profession. Je préfère un tout petit peu moins de talent et le sentiment que le métier qu'on exerce est respectable et doit être respecté.
C'est pas un journal d'opposition à la ville. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que François a écrit des articles dévastateurs contre le PS, par exemple, contre le PS local.
Pas d'amis. Tout le monde est ennemi de François. La droite, la gauche, le dosis. Tout le monde.
Alors ça, c'est au café chez Fro, c'est le club de supporters de Fakir, là, hein, quand même. Bon, alors, mais quand même, les commentaires, maintenant, après les déclarations que nous a faites Roger Mézin au micro de là-bas, si j'y suis, les réactions de celui qui a mis son talent au service du mal.
Faire ce travail en local, c'est pas facile. Quand on va critiquer quelqu'un et puis on a des chances de le retrouver le lendemain à la boulangerie du coin. Vous voyez, c'est pas un rapport qui est évident. Si vous critiquez Chirac, vous le retrouvez pas le lendemain à la boulangerie. Si vous...
Il y a peu de chance là.
Oui, il y a très peu de chance. Donc, ça fait que les liens en local sont très très resserrés. et y compris entre les institutions politiques, la presse qui est supposée être un contre-pouvoir et les institutions financières. Il y a 50 personnes qui détiennent l'essentiel des pouvoirs et de ce qui est supposé être le contre-pouvoir. Et en plus, chez ces personnes-là, on va avoir des croisements. C'est-à-dire qu'il va y avoir un cumul de places. Si on prend par exemple une personne qui s'appelle Serge Camine, qui est directeur du Crédit Agricole, c'est-à-dire la plus grosse banque de la Somme. Le directeur du Crédit Agricole est également vice-président du Courrier Picard. Donc déjà, on voit le lien entre le pouvoir financier et le pouvoir médiatique, puisque le Crédit Agricole possède 45% du Courrier Picard. Et ensuite, cette personne écrit pour Gilles de Robien un rapport qui est Amiens à l'horizon 2010. C'est-à-dire que c'est l'homme qui façonne un peu la pensée de Gilles de Robien. Donc il est également du côté du pouvoir politique. Et par ailleurs, il est président de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc vous voyez comment il va y avoir un cumul de places. Le fait que le directeur actuel du Courrier Picard soit un cadre en mission du Crédit Agricole, que son vice-président vienne du Crédit Agricole, on peut pas dire que ça soit un journal qui se situe pas dans un certain cadre économique, quoi. Donc à ce niveau-là, les liens sont très resserrés. On peut penser que c'est difficile de mettre à nu ces liens entre les notables. Il n'y a pas besoin d'aller regarder dans les loges maçonniques ou vous voyez d'aller regarder ce genre de choses-là. C'est dans les documents. Si on regarde l'ours, c'est-à-dire la description des journalistes, des responsables du Courrier Picard, qui apparaît comme directeur de la publication, Michel Collet, directeur de publication du Courrier Picard. Or, si on regarde le journal de la Chambre de commerce et d'industrie qui s'appelle Entreprise 80, si on regarde dans son ours, qui est le directeur de la publication, c'est encore Michel Collet. Donc, c'est-à-dire qu'on a là une confusion entre ce qui est supposé être un contre-pouvoir régional, qui est également le publicataire du journal des patrons, quoi. Donc là, on a une connivence qui est très, très, très forte entre les deux.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Alors, seconde affaire concernant ce petit moustique, ce journal Fakir, je le rappelle, créé en 1999, vendu tous les deux mois et à peu près tous les deux mois à 2500 exemplaires dans la bonne ville d'Amiens. Deuxième affaire qui découle de la première, c'est l'affaire dite du Courrier Picard, un journal local, important, prestigieux, qui s'appelle Le Courrier Picard. Et Le Courrier Picard fait un compte-rendu de l'affaire que nous venons d'évoquer, et un compte-rendu qui n'est pas très très favorable au petit journal Fakir. Et donc, Fakir se rebiffe contre l'auteur de l'article et le prend à partie et le traite de chien de garde, je cite, sans les dents mais avec la langue. C'est marrant quand même, c'est des... voilà, c'est un journal satirique, c'est un journal humoristique. On a des journaux satiriques et humoristiques dans notre pays depuis quand même pas mal de temps, même si ça a tendance à être de plus en plus un humour gentillet chez certains hebdomadaires qui avaient la réputation vraiment de mordre. Eh bien voilà que ce petit journal local mord à nouveau et adresse au Courrier Picard, à l'un des rédacteurs du Courrier Picard, un courrier le mettant en cause. Ce qui ne fait pas rire du tout le Courrier Picard, ni le journaliste mis en cause, Michel Mayenfisch, qui, à son tour, intente une action en justice contre le moustique Fakir. Donc, visite au Courrier Picard, qui nous accueille à l'heure de la conférence de rédaction aux alentours de 10h du matin.
On va faire très fort demain le sondage CSA, donc pareil en page 2, donc c'est toutes éditions ça. Ok, sinon dans la miennois nous n'avons pas grand chose. Et le Festival de l'Oiseau, nous suivons. Bon, et Et puis en Haute-Picardie, il y a du foot en local. Mon Didier contre Amiens, les supporters commentent le match. Voilà, en public, et ça me plaît aussi beaucoup. Il y a énormément de polémiques autour d'Élodie Gossuin en ce moment. Vous savez qu'Élodie Gossuin est picarde.
Miss France.
Ex-Miss France 2001. Et conseillère régionale fraîchement élue. Et nous avons voulu en avoir le cœur net, c'est-à-dire savoir comment les gens réagissent par rapport à sa présence dans ce qu'on appelle aussi la ferme des stupidités. Mais voilà, bon, bah, on va avoir le résultat par le CSA cet après-midi.
Et donc c'est le sondage, c'est ça?
Ouais, c'est ça, le sondage qu'on va publier donc en toutes éditions, en page.
Vous commandez un sondage pour savoir ce que pensent les Picards d'Élodie Gossuin.
Voilà, pas les Picards uniquement, les Français.
Ah, les Français, voilà. Un sondage national.
Ah, absolument.
Commandé par le Courrier Picard.
Absolument, oui, tout à fait.
Vous en faites combien de sondages par an?
Très peu, là.
Grosso modo,
2-3, pas plus.
3.
Voilà. Et
ça fera partie des 2-3 sondages de l'année, Miss France.
Là, sûrement. Peut-être qu'on en fera un peu sur les européennes. Bon, disons que nous, ça nous intéresse à un petit peu plus que les autres, dans la mesure où elle est picarde. Bon.
Ça, c'est vendeur quand même, Élodie Gossuin.
Et je ne sais pas si c'est vendeur. En tout cas, ça provoque une belle polémique et on le voit dans nos pages paroles de lecteurs. Et franchement, les gens ne sont vraiment pas d'accord entre eux. Hein.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Jean-François Montémon, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Courrier Picard. Michel Mayenfisch, vous êtes, vous, journaliste et responsable de l'édition d'Amiens, l'édition locale. Comment concevez-vous votre métier de journaliste local par rapport aux pouvoirs locaux, qu'ils soient politiques ou économiques ou autres, et comment vous établissez votre indépendance?
C'est très simple, en ce qui me concerne. J'ai les mêmes relations avec les boueurs qu'avec le ministre. Donc, qu'on soit très clair, j'ai autant de respect pour l'un que pour l'autre. Et bien entendu, tout le monde manipule tout le monde, vous le savez bien. Les tentations sont grandes de se servir de ce que l'on appelle la presse locale ou régionale. Il est plus facile de faire Le Monde que de faire le Courrier Picard. Pour la bonne raison que le Courrier Picard à un lectorat extrêmement ouvert, que le lectorat du Monde est au moins un peu ciblé. Et c'est de la provocation que je fais là. Et bien évident, l'ensemble des informations que nous recevons sont extrêmement, extrêmement diverses, et nous devons avoir une humilité extrême par rapport aux informations que nous donnons. Parce que l'information service, par exemple, est une information essentielle pour notre lectorat.
Alors c'est quoi l'info service?
Eh bien, l'infoservice, c'est savoir, et c'est très difficile à faire. L'infoservice, c'est savoir dire, et évidemment, c'est pas de la grande information, c'est pas du grand reportage, c'est de donner l'horaire exact du passage des poubelles dans un quartier d'Amiens. Et ça, c'est extrêmement important dans un journal local ou régional. Bien évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien aussi faire des enquêtes qui soient très très fouillées sur des informations qui peuvent paraître gênantes. Moi, je pense pas qu'il y ait d'informations gênantes.
Évidemment, autre son de cloche, autre point de vue du côté de Fakir, qui compare le Courrier Picard à un navire qui coule sans faire de vagues. Ce qu'on est en train de raconter là, entre un journal régional, quotidien régional comme le Courrier Picard, c'est des situations qu'on retrouve un peu partout en France, même si le Courrier Picard n'appartient pas à un grand groupe de presse. On trouve à peu près les mêmes situations, c'est-à-dire que la presse quotidienne régionale, la PQR, connaît une érosion, connaît un vieillissement de son lectorat, à la différence d'ailleurs d'autres pays, par exemple en Espagne ou en Allemagne. La presse locale se défend mieux, je crois que c'est le cas aussi en Angleterre, en tout cas en Irlande, et on a des journaux très pointus, très satiriques, du type de fakir dans pas mal d'endroits en Allemagne. Par exemple, on en avait rencontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Bavière lors de reportages que nous avions fait dans cette région. Alors, je m'égare un petit peu. Comment de l'autre côté, de l'autre côté du terrain, du côté du moustique, on voit le rapport, disons, au lectorat et à l'actualité locale.
Autre exemple d'acharnement à l'encontre du courrier Picard, l'histoire tragique d'un gars, Hector Lubota, 20 ans, qui est tué lors d'un accident sur un chantier d'insertion dans la ville et l'employeur. Là, il y a un article qui n'a comme seul point de vue, le point de vue institutionnel, hein, le directeur général des services de la ville. Par contre, dans Fakir, tu nous gratifies d'un dossier complet.
C'est-à-dire que bon, l'article du courrier Picard que moi j'avais relevé, mais sans y faire plus attention, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit, nous dit que c'est la faute à pas de chance. Il y a eu un jeune qui a trouvé la mort sur un chantier. On dit que c'est parce qu'il pleut. Alors vous comprenez, en Picardie, il pleut, donc il y a des accidents du travail. Vous voyez, c'est un peu une fatalité météorologique. Donc c'est de la faute à pas de chance. La seule personne qui est interrogée dans cet article, c'est formidable, c'est quand même quelque chose qui n'a, quelqu'un qui n'a rien vu, rien entendu. C'est un cadre de la ville d'Amiens qui vient dire tout était conforme au niveau de la sécurité, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a aucun personne en contrat emploi solidarité qui travaillait dessus qui est interrogé. Il n'y a pas, par exemple, la famille de la personne qui est décédée. Il n'y a pas les collègues de travail. Il n'y a personne qui a travaillé sur ce chantier. C'est juste une personne complètement extérieure qui vient dire tout est bien.
Et d'ailleurs, il est dit explicitement, rien n'explique encore cet accident, sinon peut-être les pluies de ces derniers jours et le vent.
Donc ça tient sur une colonne et demie, vous voyez. Bon, donc il y a le décès d'une personne, ça tient sur une colonne et demie. Et ensuite, on passe au fait que quand même c'est un splendide chantier qui réussit parfaitement en matière d'insertion.
Voilà, le titre est 120 jeunes après, 130 jeunes se relaient sur ce chantier.
Voilà, c'est-à-dire que c'est formidable, c'est quand même que au bout d'une colonne et demie, après un fait
sur trois, hein, sur trois consacrés à l'affaire,
on arrive à dire que tout est parfait. Non seulement c'est parfait à ce niveau-là, mais en plus au niveau de l'insertion, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Enfin, ce chantier représente énormément d'espoir pour certains d'entre eux. Bon, voilà, on voit le ton est donné. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? J'ai trouvé, enfin, il y a une personne qui m'a amené vers des gens qui avaient travaillé sur ce chantier, qui m'ont raconté de quelle manière se déroulait le chantier. Donc il y a quand même. Ensuite j'ai eu accès. On m'a raconté un peu une expertise qui avait été effectuée sur le chantier où l'expert en travaux du bâtiment regrettait. Qu'il n'y ait pas eu d'analyse qui a été faite au niveau du sol.
Et alors là, je t'interromps juste pour le ton titre, parce que là le ton n'est pas du tout le même, c'est tu titres « Mort dans le parc à pauvres ». Accusé, la ville se tait. François, est-ce que là, la façon dont le courrier Picard traite de cette affaire, c'est une preuve d'allégeance à la mairie? C'est parce que c'est la mairie qui est l'employeur, donc on veut pas de vagues?
À la fois, bien sûr qu'il y a cet aspect-là, il y a l'aspect... Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui est un pauvre, qui est décédé, donc c'est pas la peine d'en faire des tonnes. C'est évident que si c'était un fils de notable qui était décédé, à mon avis, on en aurait eu beaucoup plus. Là, j'ai fait une comparaison, puisque le courrier Picard dit en permanence, c'est par manque de moyens. Bon, bah soit, c'est par manque de moyens. Le décès de cette personne, le courrier Picard y a consacré 0,1, un article avec une photo et un seul témoin interrogé.
Il y a un petit encadré que tu as fait dans ton journal. Là.
Avec un seul témoin interrogé, qui est donc le cadre de la mairie. De l'autre côté, il y a eu un meurtre qui s'est déroulé dans le même temps sur la Somme. Le courrier Picard y a consacré 12,1.
Le meurtre de Christelle Dubuisson.
Voilà. Le courrier Picard y a consacré 12,1, 23 articles, 60 photos, 26 témoins. Avec recherche de 26 témoins. Donc là, on voit bien qu'il y a une véritable volonté d'investigation sur ce sujet-là, qui n'a pas été présente sur quelque chose où c'était non pas un criminel, mais sans doute les pouvoirs publics qui pouvaient être incriminés. Quoi. Là, on la joue pas de vague, surtout pas de vague. Quoi.
Alors, réponse du côté du courrier de Picard, Michel Mayenfisch, qui est chef de la rédaction locale de la page Amiens.
Autre sujet épinglé par Fakir, un article concernant la mort d'un ouvrier sur un chantier qui se trouve être un chantier à l'initiative de la ville d'Amiens. Bon, et là, il faut bien dire, j'ai lu cet article, alors qui est titré « Amiens, un jeune trouve la mort sur le chantier de la Citadelle ». Vous ne donnez la parole, dans l'article que vous signez, Michel Mayenfisch, qu'au directeur général des services de la ville, qui vous donne la seule vision de l'événement. Il n'y en a pas d'autre.
Hélas, hélas.
Qu'est-ce que vous dites ?
Ah ben je dis qu'il était 18h30, qu'on venait d'apprendre ça. C'était, ah, je suis pas du tout chargé des faits divers, hein. On apprend ça vers 18h30. Il n'y avait plus personne, il n'y avait personne sous la main. Je dis, bon, bah, je vais le faire. Je vais le faire avec les peu de moyens qu'on ait, parce qu'il fallait qu'il y ait quelque chose le lendemain dans le journal. J'ai donc fait ça, effectivement, qui n'est pas parfait, qui est incomplet. J'ai jamais réussi à joindre le jeune dont il est fait, Séraphine. J'ai jamais pu le joindre le soir. Il fallait rendre la copie, j'ai rendu la copie, elle n'était pas parfaite. J'ai alerté en disant, attention, c'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait, on le publie quand même, on ne le publie pas. On a décidé de le publier parce qu'on pouvait quand même passer difficile de passer à côté. Et puis voilà. Puis le lendemain matin, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai repris ma tâche de chef d'édition ailleurs, parce que je suis pas du tout au service des faits divers. Donc j'ai repris ma tâche ailleurs, j'ai confié le dossier. Est-ce qu'il était bien suivi, pas assez bien suivi? C'est pas à moi de juger le travail d'un autre confrère ou d'autres confrères. Ils ont peut-être suivi l'affaire, ils n'ont peut-être pas suivi, j'en sais rien. Et c'est pas, honnêtement, que sous les judices, moi, je sais pas, c'est pas à moi de critiquer le travail ensuite de mes confrères. Effectivement, ça tombe sur moi pour le premier papier. Ouais.
Est-ce que vous diriez globalement que aujourd'hui la PQR quotidienne régionale hein, n'a pas les moyens de l'enquête ne peut pas être un contre-pouvoir?
Oui, elle a les moyens. Elle a les moyens, mais en s'organisant totalement différemment, et s'organiser différemment, c'est pas facile avec les effectifs tels qu'ils sont, quoi, dans les journaux. C'est vrai qu'il y a pas assez de monde. Il faudrait plus, ça serait
leur... Les fakirs, ils sont pas nombreux, ils arrivent à le faire.
Il a pas à gérer les 35 heures. Moi, en tant que chef de service, il...
C'est les 35 heures.
Non, mais les 35 heures et puis autre chose. Il y a un septième jour, il y a un journal du septième jour aussi. C'est un journal de plus. Il y a un tas de charges annexes. Je suis désolé, fakir se fout de moi en disant il est tout juste bon à recopier les menus de la cantine. Ben oui, on fait aussi les menus de la cantine. Mais s'il avait travaillé dans un journal régional, il se rendrait bien compte qu'effectivement, quand il y a personne, ben on les tape nous-mêmes, ouais, parce que sinon c'est pas dans le journal. Qu'est-ce que je dis?
Voilà l'explication de Michel Mayenfisch. Une autre explication, un autre éclairage, un autre point de vue, celui de Jean-Louis Bétan, qui appartient au SNJ-CGT, c'est-à-dire au Syndicat National des Journalistes, CGT.
Enfin, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec lui. C'est notre cas, on n'est pas toujours d'accord. Là, on était d'accord sur certaines questions, on est d'accord. On ne le cache pas, d'ailleurs. On est d'accord quand il écrit une presse qui ne fait pas suffisamment d'investigations, qui ne dérange pas assez, qui joue pas son rôle de contre-pouvoir. On est totalement d'accord là-dessus. Mais il est évident qu'il est complètement ridicule que notre journal s'en prenne à ce journal. On sort 50 ou 60 pages tous les jours sur plusieurs éditions. François Ruffin, c'est 10 pages quand il peut.
Tous les 3 mois.
Tous les 3 mois, oui. Bon, c'est complètement disproportionné.
Vous dites dans votre tract, le courrier passait pour une exception impertinente dans le paysage de la presse quotidienne régionale. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 20 000 lecteurs de plus.
Ce journal passait pour une exception impertinente, effectivement, dans la presse française. C'est vrai aussi qu'il a perdu 20 000 lecteurs. Il est dans la situation d'à peu près tous les journaux de la PQR. Faut pas dramatiser. Tous les journaux sont comme ça. Il y a la concurrence de la télévision, maintenant des nouveaux médias. C'est pas rose, là.
Est-ce que vous voyez pas peut-être un lien, justement, entre cette forme de journalisme quand même assez aplatie, assez molle, assez complaisante, et puis la fuite des lecteurs?
Ah, j'en suis certain. Et je pense que la presse écrite est indispensable en province comme ailleurs. Parce que c'est une presse, parce qu'il y a aussi le papier, ça reste. C'est quelque chose auquel on peut se référer, c'est quelque chose qui a été pensé, quelque chose on a pris de la distance par rapport à l'événement. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et ça l'est au niveau de la province, comme ça l'est au niveau de la nation, comme ça l'est au niveau de l'international. Le terrain de la critique et le terrain du contre-pouvoir est occupé au niveau national. On peut faire différents choix de journaux, on peut trouver des opinions contradictoires. En province, on ne peut pas. Sur le fond, nous considérons, comme François Ruffin, que la ligne éditoriale du journal ne correspond plus à ce qu'elle était, ce qui lui valait ses lecteurs. Si on veut remonter plus loin, et nous le faisons assez fréquemment, ne correspond plus du tout aux idéaux de la résistance et du Comité national de la résistance, qui pour nous, quand je dis nous, c'est les journées CGT, très important. Le journal est dans son fonctionnement quotidien, il y a un directeur général qui ne vient pas de la presse, qui a énormément de pouvoir.
Il vient d'où?
Crédit Agricole. On est une entreprise, enfermée comme une entreprise, etc. Alors que on est encore officiellement indépendant, ce qui est extrêmement rare dans le paysage.
Mais est-ce que vous utilisez cette indépendance?
Pourrait. Elle reste assez virtuelle.
Vous diriez que c'est la voix de son maître aujourd'hui, le votre journal?
Non. On peut pas dire ça parce qu'on peut pas. D'abord, pour dire la voix de son maître, il faudrait isoler un maître. Alors, il n'y en a pas. on peut pas. Donc c'est pas la voix de son maître. C'est effectivement un journal qui, à notre sens, ne fait pas d'investigation. C'est ça qui manque. C'est plutôt notre travail. Ça devrait être notre travail, donner à expliquer le monde où on vit, etc. Pas simplement la façon, enfin les, pas montrer les soubresauts, mais expliquer pourquoi il y a des soubresauts.
C'est le comment, mais pas le pourquoi.
On montre, oui, on n'explique pas.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ?
Moi, je ne crois pas que la presse alternative soit une alternative. C'est-à-dire que il faut bien en voir les limites. Moi, j'ai 2500 personnes qui l'achètent sur Amiens. Ça fait un public qui est quand même très réduit. Sur le plan, le modèle économique qui est derrière ça est quasiment inexistant. Donc, il ne faut pas penser que c'est par ça que le contre-pouvoir va exister. Ce travail de contre-pouvoir que nous on fait à 2500 exemplaires, c'est en fait au Courrier Picard de le faire à 80 000, c'est à France 3 de le faire tous les soirs, c'est à France Bleu Picardie de le faire. Je me suis retrouvé dans un débat à Amiens, où une personne dans la salle, donc il y avait François Picardie, France Bleu Picardie, le Courrier Picard un représentant, et puis moi pour Fakir. Une personne dans la salle dit « Mais oui, mais comment ça se fait que vous faites pas d'enquête ?» Il demande ça au Courrier Picard, et réponse unanime du Courrier Picard, de France Bleu Picardie et de France 3, « Mais pour les enquêtes, vous avez Fakir. » Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce fonctionnement-là, parce que nous, on est tiré à presque rien, on est lu, et j'en suis très bien conscient, par presque personne, donc le pouvoir qu'on a est quasiment nul, comparé à la puissance de feu qu'ont ces...
Est-ce qu'ils reprennent vos enquêtes ?
Non, ils les reprennent pas. On peut créer autant de médias alternatifs qu'on veut, mais l'essentiel c'est de transformer TF1, parce que c'est TF1 qui fait l'information aujourd'hui. L'information, ce qui fait l'information locale aujourd'hui, c'est le Courrier Picard. Ce qui fait l'information au niveau national, c'est TF1. Et peut-être effectivement les transformer aussi sur le plan financier. Que le Courrier Picard appartienne à 45% au Crédit Agricole, c'est quand même assez déterminant. Que le Courrier Picard édite le journal des patrons. Les patrons qui mettent en place ces centres d'appel dont le Courrier Picard va dire du bien, c'est quand même assez déterminant. C'est de la même manière pour TF1. Si on veut changer l'information, il faut changer sans doute l'actionnariat de TF1, quoi.
Voilà, merci à tous, merci à François Ruffin et à toute la rédaction au complet de Fakir, c'est-à-dire à Aline et Fabien. Merci à Jean-François Montemont et Michel Mayenfisch du Courrier Picard. Merci à Roger Mézin, à Jean-Louis Bétan et au café chez Froc Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. C'était un reportage de Thierry Char. D'autres journaux comparables à Fakir existent dans notre beau pays. Au hasard, en voilà quelques-uns. La lettre à Lulu à Nantes, Nouvelle Vague à Bègle, Silence à Lyon, Agitateur.org à Bourges. Mais ça, Agitateur.org, c'est sur le net. Il y a pas mal de journaux et de fanzines alternatives sur le net. Alors, donc, vous avez compris, ou peut-être pas tout à fait compris, que l'affaire Courrier Picard contre Ruffin vient en appel le 12 mai prochain, et qu'il faut donc soutenir ce journal, et vous pouvez le faire, si je retrouve mes petits papiers, sur www.fakirpresse.info, donc www.fakirpresse.info. Réalisation Antoine Chao, musique Coy Nguyen, assistante Pascal Pascariello, et Christophe Imbert s'occupe du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de là-bas, si j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.